Bonjour, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Sécurité 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Cette semaine, grosse émission, vous êtes en compagnie de Nicolas.
Johnny.
Et de Guillaume.
Et Farouco même.
Eh oui, même ouais. Farouco. Et il y a François qui va se joindre à nous en cours d'émission pour nous parler en fait d'une manifestation, d'un comité d'accueil à Jean Charest, organisé par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Comité d'accueil qui a eu lieu mercredi en début de soirée à Lévis. Mais c'est évidemment pas tout ce qu'on va voir à l'émission. On va parler aussi beaucoup d'international.
Vous pouvez être un peu tanné parce qu'on en parle partout d'Haïti, mais on va en parler dans une perspective libertaire ce soir pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là.
On a aussi ramené une entrevue avec l'animateur d'un blog sur la situation en Iran, Iran en lutte. En fait, c'est un extrait d'une entrevue qui a été diffusée sur une autre station dans un autre continent. Et l'intégral sera sur notre blog. Et il y a aussi plusieurs autres nouvelles.
Ouais, je vais vous parler de propriétaires sans scrupules à Val-d'Or, aussi d'une réponse de Québécois au conflit de travail au Journal de Réveil, et aussi d'une décision inquiétante dans le cas de Mumia Abu-Jamal.
Tout ça en dedans d'une heure sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On a même de la musique.
Ah oui, on commençait avec une chanson humoristique du groupe Oi Poloi qui parle de cancer et de testicules. Alors, bonne émission.
Sur les ondes de CKIA 88.3, on n'a pas changé de station depuis avant la toune. Donc, il y a des propriétaires peu scrupuleux quelque part dans le nord du Québec.
Ah, c'est ça, c'est à Val-d'Or, c'est en Abitibi, c'est une pénurie de logements qui est en train d'être une situation un peu difficile pour certaines personnes. Parce que les propriétaires, comme ils savent que le logement se vont louer de toute façon, certains propriétaires laissent des logements se dégrader ou louent des logements improvisés. Il y a un locataire d'un seul d'un immeuble situé sur la troisième avenue Val-d'Or qui a visité son logement au recoupement d'éducation populaire de la Témiscamingue de la Répate. Puis un journaliste Radio-Canada, ils disent qu'ils ont pu observer un logement rempli de moisissures. Il y a un agent de développement de logement social du regroupement d'exécution populaire, Danick Laporte, qui a dit que c'était la première fois qu'il voyait un logement qui était aussi affecté par les moississures, puis il dit que l'état de l'approvisionnement général est complètement réussissant, puis il dit que l'odeur était vraiment insupportable. Puis le locataire, il dit qu'il doit passer la nuit à la maison d'hébergement de la Piole lorsque l'odeur ça devient insupportable. Il faut que souvent qu'il sorte parce que c'est difficile de rester
c'est
en dedans.
C'est insalubre.
Ça, puis le gérant des meubles, lui, il disait, ben, je pensais qu'il louait des meubles, mais pourtant, il y a des sources qu'on indiquait à Radio-Canada que ce gérant-là avait déjà été appelé à intervenir pour une fuite d'eau dans l'appartement, puis apparemment qu'il s'en était carrément foutu, là.
Ouais, ben, c'est ça, la crise du logement se répand dans toutes les régions. À Val-d'Or, entre autres, il y a eu une conférence de presse très courue du Frappru quand il y a eu le dossier noir sur le logement et la pauvreté qui est sorti. Alors, ça va être un dossier à suivre. Et effectivement, il va y avoir des mobilisations sur ces questions-là.
On espère.
Sinon, il y a aussi, toujours dans le monde, dans les merveilleux monde des médias, il y a des conflits de travail.
Dans le domaine des écœurants. C'est aussi des Québécois qui se disent qu'on est attaqué dans le conflit de travail qui le pose à la question politique du journal Réveil sur Saguenay. Ces Québécois ont dit qu'on a été la décision rendue le 14 décembre dernier par le juge Raymond Gagnon, qui avait décrété que les conseillers publicitaires du Réveil agissaient à l'issue des briseurs de grève, parce que le juge de la Commission des relations du travail faisait référence à une chronique de demandeur On est là, qui est signée par les conseillers publicitaires, qui était publiée dans le journal à la rencontre. Puis là, dans une requête qui était disposée vendredi dernier, ben, Québécois, il affirme que le juge Gagnon a fait juste sa preuve. Il accuse le juge d'avoir commis une grave irrégularité, puis qu'il y a eu un vice de procédure, puis que la justice n'a pas été rendue, donc... Les autres Québécois, ils vont obtenir une audience en appel devant trois juges de la Commission des raisons du travail à Québec le 15 février.
On est habitué à voir les conseillers publicitaires remplir les pages des journaux, mais d'habitude, c'est avec des publicités, pas avec des chroniques.
Ouais, on commence à être habitué aussi à voir la Commission des relations du travail donner raison à Québécois aussi.
Ouais, mais là, si j'ai bien compris, dans ce cas-là, la Commission des relations du travail était d'accord avec le syndicat, puis c'est Québécois
non,
qui conteste.
Non, ils vont en... Ils contestent en avant de trois juges, mais
ouais,
toujours, en tout cas.
Ils contestent la décision de la CRT.
Oh, en tout cas, c'est une surprise d'avoir... yeah. On continue?
Ben, on continue. Je crois qu'on a de la musique. Ben, on va revenir sur Haïti, à moins que Guillaume veuille y aller tout de suite sur Haïti.
Ben non, on peut y aller en musique avant.
Ouais, avec bon. Une pièce de Yabasta, appelée Camélia, musicalement plus douce aux oreilles de Phébus.
Ouf!
On connaît une fille qui a tout juste le passer. Pas de chance pour un cœur et les mains au cœur. Elle est finie à la fac comme beaucoup de ses francs. Et pour gagner sa vie, elle garde des enfants. Mais tout irait bien dans le meilleur des mondes si les flics ne faisaient pas leur putain de ronde. Car j'ai oublié de vous préciser que notre ami en France est un désiré. La carte de séjour lui est refusée. L'administration veut l'exiler. Qui va t'arrêter? Qui va t'enfermer? Qui va t'expulser? C'est l'État français, c'est l'État français. C'est la trouille du contrôle dans ce monde fliqué. Insulter ses vies sont trop souvent pratiquées. Alors l'espace d'une nuit elle oublie la menace. C'est au bras d'un jeune type qu'elle se prélasse. Il aimerait bien continuer avec elle. Mais ses chers concitoyens sont formés. Leur union est une enfance à leur pays. Ils comprennent la France et ta vie finie. Qui va t'arrêter? Qui va t'enfermer? Qui va t'expulser? C'est un français, c'est un français. Qui lance à longue pour plein de ventes le progrès. Mais
Chose promise, chose due, toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait et on va parler d'Haïti avec Guillaume.
Ouais, comme vous le savez, il y a eu une catastrophe énorme, un énorme tremblement de terre en Haïti. Puis, tous les médias nous en parlent et nous relatent l'aide humanitaire qui arrive par nos bons soldats, nos bons militaires de tout le monde entier et les diverses organisations et tout. Puis, malgré les appels à se méfier de comme les organisations qui pourraient vouloir frauder à travers l'aide et tout, faut penser aussi que la manière dont l'aide va être organisée par les États et par justement basée sur des militaires, basée sur des grandes organisations internationales. Il y a un sommet d'ailleurs qui va se tenir à l'extérieur du pays, à Montréal, la semaine prochaine, entre autres, avec les dirigeants des États-Unis, de la France, du Brésil et du Canada, dans le fond, pour planifier la reconstruction. Donc on parle d'une reconstruction qui part de l'élite, l'élite même pas du pays, mais sûrement qu'elle va être de connivence par la suite. Mais c'est ça, ben par rapport à au traumatisme que le pays d'Haïti vient de vivre, c'est sûr que c'est un séisme naturel, c'est une catastrophe naturelle qui vient d'arriver. Sauf que ça fait longtemps que ce pays-là est dans une situation pénible et dans une situation qui a été imposée par les diverses organisations internationales, entre autres le FMI, qui a imposé des plans d'ajustement structurel. On parle aussi de la colonisation par la France, puis de l'occupation par les États-Unis pendant une longue période. Tout ça a contribué à faire que ce pays-là est aussi sous-développé, est aussi vulnérable à une catastrophe de ce genre-là, que le pays a pas les moyens de se débrouiller par lui-même. En tout cas, peut-être que n'importe quel pays aurait eu besoin d'aide extérieure dans un contexte comme celui-là, mais Haïti, dans ce contexte-là, est aussi dépourvu de ressources que ça, à cause que, justement, il y a une tutelle qui est mise sur ce pays-là depuis tellement longtemps. Puis,
en gros, ça veut dire que les catastrophes artificielles ont fait un terreau fertile pour que la catastrophe naturelle démolisse la plante.
Ouais, ce que je lisais, c'est que le Japon est victime relativement régulièrement, entre guillemets, de secousses sismiques du même ordre et que ça n'a pas le même effet parce que les infrastructures ne sont pas construites de la même façon, parce que l'État japonais n'a pas les mêmes moyens que l'État haïtien, parce que.
Effectivement.
Ce qui n'empêche pas les Japonais d'avoir besoin d'aide pareil quand ils ont un tremblement de terre, là.
Ben, c'est ça, mais en fait, le tremblement de terre, d'après ce que j'ai pu en lire aussi, était assez particulier. Là, Haïti était genre très, je suis pas géologue, là, mais était proche de la surface, donc il n'y a pas eu comme d'avertissement très très rapide. Ben, il n'y a pas eu d'avertissement, bref, avant que les vraies secousses arrivent. Donc, ça a été, les gens ont été pris par surprise vraiment. Puis, en plus, c'était comme très, très rapide comme tremblement de terre. Donc, en tout cas, bref, il y avait tout contre eux autres, mais donc, en plus, il y avait pas seulement le fait que c'est la nature qui s'est déchaînée, mais c'est ça, l'organisation du monde actuel les a complètement mis de côté, mis à l'écart pour ça. En tout cas, à travers tout ça, ce qu'on peut s'attendre, c'est que encore une fois, le peuple haïtien va être mis de côté en conséquence du passé. Je veux dire, le peuple haïtien a été mis de côté par rapport aux dettes qui ont été acquises sous la dictature, puis que dans le fond, le pays a été forcé de rembourser jusqu'au dernier centime, malgré que ça les appauvrissait puis que ça les affamait. Le peuple haïtien a jamais été justement la priorité quand les programmes d'ajustement structurel ont imposé que du dumping alimentaire par rapport au riz puis aux autres denrées qui venaient des pays riches à, comme les États-Unis avec des subventions incroyables et le Canada aussi des subventions incroyables à l'agriculture alors que le pays était autosuffisant jusqu'à cette période-là qui a créé des bidonvilles à Port-au-Prince parce que les gens de la campagne n'avaient pas le choix de quitter donc on parle d'une précarisation encore plus, d'une vulnérabilité par rapport au tremblement de terre. Ensuite, c'est le peuple haïtien a été mis de côté aussi avec il y a eu des affaires d'abus sexuels qui ont été relatées il y a eu une couple d'années par des casques bleus dans le pays, que les casques bleus ont été subtilement ramenés dans leur pays. On parlait de Sri Lanka dans ce cas-là, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la MINUSTA actuellement et qu'est-ce qui se passait avec les autres contingents. Puis, on peut dire aussi que c'est le peuple haïtien n'a jamais été la priorité dans le cas des salaires et des zones franches et tout qui sont surexploitées et qu'on se soucie pas du tout de faire de leurs conditions quelque chose de raisonnable.
D'ailleurs, parlant des salaires, le FMI vient d'annoncer un prêt et une des conditions rattachées au prêt, c'est le gel des salaires de la fonction publique haïtienne.
Fonction publique qui est un des bastions où on se bat contre les plans d'ajustement structurel du FMI, justement, parce que c'est le gouvernement a comme pas le choix, les élus ont comme pas le choix, sont menottés par ça, mais la fonction publique est un des bastions en Haïti qui se bat contre ça, fait qu'on s'attend pas, on se surprend pas que justement, effectivement, ce soit une des conditions, t'sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, bref, à regarder ça, venir d'en haut, venir des pays coloniaux, là, parce qu'on parle quasiment d'une colonisation, encore une fois, d'Haïti, on peut s'attendre à ce qu'encore une fois, ce soit le plan des élites qui soit mis de l'avant et la reconstruction, c'est presque une opportunité de dire bon, faut refaire le pays au complet dans ce contexte-là, mais ça serait une opportunité pour la population si seulement l'occasion leur en était laissée. Puis c'est d'ailleurs pour ça que, dans le fond, pour faire en sorte que en ayant des visées progressistes puis une visée d'aider justement les gens qui travaillent au quotidien, qui vivent là-bas, qui vivent qui essaient de faire des mouvements autonomes et syndicalement ou localement et tout, c'est pour ça qu'il y a un appel qui a été lancé par l'organisation Miami Autonomie et Solidarité, qui est en contact avec l'organisation Bataille ouvrière à Port-au-Prince, qui, dans le fond, cette organisation-là est une organisation syndicale qui regroupe des syndicats d'entreprise, des comités d'usine, des associations de travailleurs et des militants. Ils ont aussi une association volet jeunesse. Puis là-bas, ils œuvrent à la construction d'un mouvement syndical autonome et combatif et démocratique. Puis pour organiser tous ces gens-là, les ouvriers, travailleurs, chômeurs et pour la défense de leurs droits. Ça se veut une alternative au mouvement syndical traditionnel qui est en collusion avec les classes dirigeantes, puis en vue de justement d'aider les masses exploitées en Haïti. Puis ils prennent comme initiative de développer des luttes revendicatives, mais aussi d'inciter les ouvriers et travailleurs et travailleuses à se battre, puis à s'organiser pour défendre leurs intérêts propres. Bataille ouvrière, ils établissent aussi des liaisons de ces luttes particulières avec celles plus générales du peuple. Puis en ce sens-là, ils prennent part à toutes les formes de lutte démocratique, populaire, puis ils encouragent la participation des ouvrières, des ouvriers, des travailleurs, travailleuses. Entre autres choses que Bataille ouvrière va faire, ils se battent contre les zones franches puis les conditions d'exploitation extrêmes dans les usines de sous-traitance, contre le métayage et formes de production archaïques qui prévalent à travers les campagnes. Puis ils luttent pour l'instauration de conditions de travail et de vie dignes de toute personne humaine dans le cadre d'une société participative déterminée par la justice sociale et l'accès universel aux biens et services du monde actuel. C'est sûr que on peut penser que leurs batailles plus larges et tout vont euh, vont peut-être être mises de côté dans le temps de la reconstruction, mais on peut aussi penser que ça va être des gens qui vont travailler à ce que, justement, ce soit les gens d'Haïti, le peuple localement, qui profitent le plus possible de la reconstruction pour se sortir de la misère, d'une sortie d'une misère qui était là avant, mais d'une misère qui ne devrait pas revenir par après. Puis, en tant que libertaire, en tant que gens progressistes en général, on peut penser que ce serait une bonne idée de donner via cette organisation-là au lieu d'aller vers une organisation qui va imposer ses vues directement au pays, directement aux gens, puis qui vont arriver avec leurs gros sabots, puis tout brisé, tout tassé. Donc, c'est l'appel qu'on lance, là, ben, en tout cas, que je lance, parce que c'est pas une position officielle de notre organisation, mais c'est quelque chose qui est quand même qui est intéressant, c'est une initiative qui existe, puis on a les informations.
C'est quand même un appel qui a été soutenu.
Qui a été soutenu par plusieurs...
Par l'UCL et d'autres organisations. Ben oui, effectivement, l'appel de soutien à Bataille Ouvrier est publié sur notre blog. Mm-hmm. Il a recommencé à avoir des possibilités de dons électroniques en passant par le Centre Ouvrier de Miami, dont le lien va être sur notre blog dès ce soir. Puis il y a possibilité aussi d'envoyer chèques et dons mm-hmm. à Miami, où il y a un réseau de solidarité avec Bataille Ouvrier à New York et à Miami. Effectivement, l'enjeu, bon, ça va être de reconstruire les locaux éventuellement, mais aussi de continuer les batailles d'organisation. Il y a déjà des syndicats qui ont été mis sur pied dans des zones franches. Il y a même des conventions collectives dans certaines zones franches. Puis c'est sûr que dans le contexte de la reconstruction et dans le contexte de nouveaux ajustements structurels, de nouvelles renégociations, il va falloir que les Haïtiens soient en mesure de s'organiser pour faire face à la musique et pas que personne profite de la tragédie pour réduire encore plus leurs droits.
En effet.
Donc tout ça sur voie de fait avec un x et un s.blogspot.com.
Exactement.
À part de t'avoir coupé, est-ce que t'avais quelque chose d'autre à
rajouter?
Ben non,
c'était ça que je voulais dire, en fait.
C'est super. Ben nous, on va s'en aller en musique.
Oui, on prend une belle petite pièce instrumentale mollo pour enchaîner ensuite avec le restant de l'émission. On va y aller avec Caméra Silence, avec Swing Easy.
Au retour, on va avoir une entrevue avec l'animateur d'un blog qui suit les développements en Iran.
Thank you.
De retour sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, vous écoutez toujours Voix de fait. Alors, comme on l'avait mentionné d'entrée de jeu, la suite du programme, c'est une entrevue avec un blogueur qui anime un blog sur l'Iran. Donc ça, c'est une entrevue qu'on est allé chercher sur Internet, toujours le réseau des radios libres et associatives et communautaires et tout ce qu'on voudra. C'est une entrevue qui a été diffusée pour la première fois sur Radio Primitive à Reims. C'est l'émission L'Égrégore, qui est l'émission de nos amis de du Chat Noir, le groupe local de l'Organisation communiste libertaire à Reims. Une émission qui est diffusée dans plusieurs stations en France. Et donc voilà, on a un extrait d'une entrevue. C'était une émission spéciale au complet, à peu près une heure, et on va mettre l'intégrale sur notre blog. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, on passe un 10 minutes et au retour, on a notre envoyé spécial de retour du comité d'accueil Jean Charest à Lévis.
Oui, ben alors moi c'est Pascal, donc j'anime un blog qui s'appelle Iran en lutte, c'est l'adresse c'est Iran en lutte tout attaché .wordpress.com sur l'actualité de l'Iran depuis le mois de juin, notamment dans la crise révolutionnaire, et je travaille essentiellement avec le Parti communiste ouvrier d'Iran.
Relever différents éléments là-dedans, mais comme toi, tu as employé le mot aussi de révolutionnaire. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te fait utiliser ce mot-là, quoi ?
Bah, moi, je dirais que c'est depuis le mois de juin qu'on sent qu'il y a un ras-le-bol de la population qui se dirige contre le gouvernement, on va dire. Mm-hmm. Ce qui a eu le tournant du 27, c'est que d'un côté, il y avait une volonté offensive de la population. C'est-à-dire que c'était pas seulement se protéger contre les violences répressives, mais c'était y compris d'aller à l'offensive, de désarmer des flics ou des miliciens du régime, de barricader des rues, d'arrêter des éléments des forces répressives. Enfin, c'était beaucoup plus offensif que d'habitude au niveau de l'affrontement du côté de la population. Mmh. Alors là, il y a des tas de vidéos qui circulent avec des voitures de la police anti-émeute qui sont attaquées, saccagées. Il y a eu un centre des Basiji sur Téhéran qui a été incendié. Enfin, il y a eu vraiment un côté offensif de la part de la population. Et alors surtout, en plus, dans un contexte, c'était des manifestations de l'Ashura. L'Ashura, c'est la principale fête chiite, fête de deuil, parce que c'est là où l'imam Hossein aurait été trahi. Enfin, c'est et un contexte où Moussaoui et les dirigeants de l'opposition, je dirais interne au régime, appelaient à des protestations mais pacifiques et religieuses. Et les slogans qui ont été criés étaient essentiellement dirigés contre Khamenei, étaient aussi un slogan qui revient de plus en plus, qui est liberté, indépendance, liberté, république iranienne, et qui en fait est une réponse au slogan des islamistes en 79, qui était indépendance, liberté, république islamique.
D'accord.
Ce qui veut dire république non islamique, donc la séparation de la religion et de l'État. Ce qui peut sembler pas forcément super radical vu de France, mais qui en Iran, ça veut dire renverser le régime.
Et tu dis donc depuis juin, mais est-ce qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs? Parce que fondamentalement, ici, on n'a pas trop d'informations sur l'Iran. On a juste une diabolisation de l'Iran dans la présentation des relations internationales qu'on peut avoir de la part des grands médias. Mais on connaît pas grand-chose sur l'Iran. C'est quoi aujourd'hui l'état de la société iranienne?
Des signes avant-coureurs. Alors après coup, le problème, c'est qu'on peut en trouver plein. Hein. Quand on les voit sur avant, bon, c'est des protestations. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a par exemple quelque chose qui a toujours existé en Iran et qui, dans le régime, a une connotation, devient très vite révolutionnaire ou de transformation assez radicale, c'est le mouvement des femmes. Mm-hmm. Il y avait eu, je crois que c'est 2006, un 8 mars, qui avait été très combatif avec pas mal de femmes dans la rue, des campagnes pour l'égalité. Enfin, il y a ce mouvement des femmes qui, en Iran, qui est quand même un régime qui est basé sur la discrimination entre les genres, Donc ça a tout de suite une remise en cause du régime, et c'était aussi une des premières résistances à la République islamique. Le 8 mars 79, c'était des dizaines voire des centaines de milliers de femmes dans les rues de Téhéran pendant plusieurs jours pour protester contre le port du voile obligatoire.
D'accord.
Qui avait fait d'ailleurs à l'époque, Roménie avait reculé, mais pour mieux réattaquer après.
Il y avait eu un 1er mai aussi.
Et voilà, et j'allais venir là-dessus. Ouais. C'est avant, donc peu avant, hein, les événements du mois de juin, le 1er mai 2009, où il y a eu un rassemblement de 2000 personnes par Parc Lallée. Alors 2000 personnes sur une ville de plusieurs millions comme Téhéran, on peut penser que c'est pas énorme, mais c'est dans des conditions de répression quand même particulières, et avec une plateforme très radicale.
Est-ce que tu peux nous donner des éléments un petit peu sur la composition sociale de la société iranienne?
Bah, composition sociale, c'est déjà, comme tu disais, tu parlais des richesses de l'extraction pétrolière, mais en plus de ça, c'est pas que un pays de production de matières premières, c'est aussi un pays qui a une industrie relativement moderne. Par exemple, l'Iran de Khodro, qui est une industrie de l'automobile en Iran, c'est la plus grosse entreprise automobile de l'ensemble du Moyen-Orient, Israël compris.
C'est ça, ils ont leur propre marque, ça s'appelle la Pécane.
Voilà, alors ça bosse pas mal avec Peugeot. D'ailleurs, les bagnoles y ressemblent beaucoup, mais bon, je sais plus combien de milliers, c'est en dizaines de milliers d'ouvriers. C'est une très grosse boîte. Il y a aussi la production de pneus. Enfin, c'est pas que le pays, je dirais, qui produit du pétrole pour le revendre aux puissances impérialistes.
D'autant plus qu'ils ont un problème de raffinement du pétrole. Ils ont pas beaucoup de raffineries, donc.
Ça en raffinerie, effectivement. Mais il y a tout le reste industriel. C'est un pays relativement moderne. Je crois qu'il y a moins de 20% de la population qui travaille dans le secteur agricole.
Ouais.
Donc c'est pas du tout la composition sociale, par exemple, de l'Afghanistan, avec une classe ouvrière, du coup, et des grosses usines, hein, comme je disais, notamment dans l'automobile, le pétrole, l'automobile, d'autres secteurs. C'est Alors, tu disais que le régime islamique a pas réussi à rendre la société plus égalitaire. Il a surtout pas cherché à le faire non plus. C'est que le régime islamique, ça a été en 79, quand il y a eu la révolution contre le Shah, et notamment la grève générale des ouvriers du pétrole. Le régime islamique, c'était au contraire un moyen de la bourgeoisie, et y compris des grandes puissances occidentales, un moyen pour écraser cette révolution.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Ben, je pense que ça serait important d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme opposition aujourd'hui en Iran, parce que une fois de plus, du point de vue des médias occidentaux, on nous présente la scène politique iranienne comme étant complètement bouclée. Alors, soit c'est un ayatollah qui est cool, soit c'est un réformateur qui est effectivement cool, mais on nous parle jamais d'autres types d'organisations politiques.
Avant de parler des autres orgas politiques,
je t'en prie.
Quand même un truc, c'est que les élections en Iran même, quand ça a commencé, il faut savoir que les candidats sont les candidatures sont forcément validées par le Conseil des gardiens de la Révolution.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que c'est forcément des gens qui sont intégrés au régime de la République islamique. Moussaoui et Karoubi, par exemple, sont complètement... Moussaoui était ministre pendant Roménie, et son discours, d'ailleurs, c'est revenir à la belle époque de Roménie.
Tout à fait, oui.
C'est pas du tout... C'est même pas un démocrate bourgeois.
Au pire.
Voilà, c'est un des membres du régime islamique. Alors, à part ça, comme c'est quand même un pays moderne, c'est un pays qui a une tradition notamment communiste de lutte, les 30 ans du régime islamique, ça a été aussi 30 ans d'opposition au régime. Notamment au Kurdistan, où il y a eu une dizaine d'années de lutte armée contre le régime, avec à la fois d'un côté un élément nationaliste kurde, avec le PDKI, le Parti démocrate kurde iranien, et aussi une guérilla marxiste, Komala.
La Komala, ouais. Ça veut dire société en kurde.
Comité, société, ouais. D'où est issu le Parti communiste ouvrier d'Iran.
C'est ça.
Par exemple, dans les oppositions, là je dirais de gauche, extrême gauche au régime. Et il y a aussi, y compris d'ailleurs, une opposition de droite, hein.
Ah bon.
des gens qui voudraient le retour du Shoah, par exemple.
D'accord.
L'opposition pro-occidentale ou des groupes comme les Moudjahidines. Il y a une perspective de changement qui peut se faire par le bas. Et ce qui donne des perspectives d'action à ceux qui ont, au contraire, toujours pensé que le changement en Iran ne serait ni par des États étrangers, ni par des tractations au sein du régime, mais se ferait par une révolution populaire, ouvrière, venant de la base. Notamment, ça, c'est plutôt les forces de gauche. Moi, ce que je connais le mieux, c'est le Parti communiste ouvrier d'Iran. Mmh. Après, il y a les autres groupes qui se réclament aussi du communisme ouvrier, comme le Parti communiste hekmatiste. Il y a les fédaïnes minorités. Enfin, il y a ces groupes qui continuent d'avoir aussi une activité en Iran même.
Alors, voilà. Si jamais ça vous a mis l'eau à la bouche, cette entrevue-là est beaucoup plus longue que le court extrait qu'on a diffusé ce soir. Et on va mettre l'intégrale sur notre site, voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. C'est, rappelons-le, une entrevue qui a été diffusée sur les ondes de Radio Primitive à Reims. Mais voilà, c'est ça, avec par l'émission Grégoire de l'Organisation communiste libertaire. Nous, on va s'en aller en musique. On va revenir avec François, notre envoyé spécial à Lévis.
Oui, on va enchaîner avec The Delinquents, un band de punk rock and roll de Toronto qui vous chante « Vivre votre vie comme si elle était volée ».
You gotta give it up.
Et voilà, c'est le son ramené par notre envoyé spécial à Lévis. Alors, qu'est-ce qui se passait à Lévis aujourd'hui? Ben, il y a l'ouverture du forum. Comment on appelle ça? Tu le coupes-tu finalement ton son, François? Bon, d'accord, voilà, il y avait un forum économique organisé par les libéraux, en fait, et il y a une toute nouvelle coalition qui vient d'être mise sur pied, la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, qui avait décidé d'organiser un comité d'accueil pour Jean Charest. La coalition veut lutter pour faire reculer le gouvernement, qui prévoit hausser les tarifs, compresser les dépenses dans les programmes sociaux, de même qu'augmenter la TVQ pour combler les déficits accumulés pendant la crise économique. Et donc, à la toute dernière minute, cette coalition-là a décidé de mobiliser pour un comité d'accueil. On prévoyait dans les groupes populaires, l'information qu'on recevait, c'est ça va être une petite affaire, puis ça va être surtout du monde de Québec, puis tu sais, on va peut-être être...
Finalement, pas pantoute.
Non, c'est ça, on va peut-être être 40, 50. Mais il faut être là, tu sais, pour comme le dire qu'on n'est pas d'accord.
Fait ben, que... Christophe, c'est quand même l'avenir de l'économie québécoise qui est en jeu, là, aujourd'hui, là, qui était sur la table, là. Fait que c'était quand même un moment important, c'était un événement aux répercussions nationales.
Et toi donc, François, t'es allé, vous étiez pas 40.
Ben, dans le bus de Québec, on était 40, mais quand on est arrivé là-bas, il y avait peut-être déjà 300 personnes d'arrivée, là, tu sais, de Montréal, principalement, selon ce que j'ai compris.
Oui, l'origine, c'est d'avoir un bus de Montréal, un bus de Québec. Il y a eu plus de bus que ça, finalement.
Oui, des gros bus, à part de ça, les gros conforts avec... Oui. Il y a juste Québec, finalement, qui était le seul avec l'autobus jaune scolaire. L'autobus des pauvres.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Concrètement, là, c'est quoi? C'est un hôtel, cette affaire-là? C'est un centre des congrès?
C'était un centre des congrès de Lévis. Donc, voilà, c'est à l'intérieur de ça que que Jean Charest et ses sbires, les patrons, les centrales syndicales, des grands patrons finalement se sont rassemblés pour l'économie, pour parler d'économie. Et donc c'est ça, il y a peut-être 300 personnes, tous des gens très motivés, le sourire, les pancartes aux mains, les slogans à la bouche. Et donc c'est ça, c'est même malgré la froidure, donc c'est quand même bravo aux militants qui étaient là.
Et ce qui était amusant, là essentiellement,
il y avait beaucoup beaucoup de syndicats, beaucoup de drapeaux de syndicats, des t-shirts de syndicats, dont le syndicat d'enseignement de Champlain. C'est eux qui avaient apporté le café et le chocolat chaud et tous les cossins à manger. Et ce qui est drôle, c'est que il y a des militants syndicats qui, tu sais, il y a beaucoup de militants de syndicats qui étaient là, mais il y a des syndicats aussi à l'intérieur du centre des congrès à Lévis, donc qui sont main dans la main avec le gouvernement, donc c'est
Mais la rumeur, vu que le syndicat de l'enseignement de Champlain a appris que leur dirigeant était à l'intérieur quand ils ont appelé pour savoir c'était où exactement la manif.
Probablement qu'ils savaient, là, tu sais, je veux dire, je peux pas croire.
Mais ils savaient un coup rendu là, mais ils ont quand même, tu sais, il y a quelques jours, semble-t-il, la rumeur urbaine veut qu'ils ne le savaient pas et,
mais bon, c'est
et
pas
qu'ils
juste
de venir quand même.
Il y a pas juste ce syndicat-là, il y en avait beaucoup d'autres, mais bon, je pense que finalement,
même
ils s'en foutaient.
Les gens de la
FTQ? Ben oui, il y en avait. Mais je sais pas s'ils étaient là peut-être en leur nom personnel, peut-être pas qu'ils représentaient leur centrale, mais quand même, ils s'en foutaient un peu de la ligne de leur syndicat. Ils se sont présentés quand même pour contester cette rencontre-là, ce forum-là. Comment ça s'appelle ça? C'est pas un forum?
Ben, je pense que c'est un forum.
Un forum.
C'est ça, c'est le mot que c'est pas un sommet. Mais c'est un forum, dialogue, rencontre nationale. Ils vont parler pendant 5 heures demain à huis clos.
C'est ça, ils vont régler ça deux jours.
Monde, c'est ça.
Et puis, je sais pas si t'en as parlé tout à l'heure.
Il y a 20 minutes aujourd'hui.
Mais ce matin, Raymond Bachand, le ministre des Finances, il a proposé que peut-être le TVQ, au lieu de 1%, ça monterait peut-être de 2%. Donc là, les enjeux sont de plus en plus importants, sont de plus en plus graves.
Il va aller chercher 900 millions de tarifs.
Donc, faisons payer les pauvres. Et donc, finalement, ce qui était proposé par les militants que j'ai rencontrés sur place, ce qu'ils disaient, c'est bon, rajoutons un palier d'imposition à place, tu sais, que les riches paient plus.
C'est des communistes.
C'est des sales communistes.
Faisons payer les riches.
Oui. Donc, c'est ça l'opinion que j'ai eue des gens qui étaient sur place. Et il y a eu un peu de brasse camarade.
Non. Oui.
Parce que là, évidemment, la manifestation, c'était peut-être 2 heures, là, tout cassé. Et là, au début, les gens étaient sages, étaient derrière les barrières, et là, bon, ça scandait,
les slogans, le monde rentrer, faisait du bruit. C'est là que ça s'est mis à...
Et là, tout d'un coup, il y a des gens qui ont essayé de rentrer. Il y a quelqu'un qui est rentré, finalement. Et puis, les policiers n'aiment pas ça, parce qu'il y avait beaucoup de policiers. C'était pas quand même pas le sommet des Amériques, là, mais bon, il y en avait. Et là, donc, il y a eu des tiraillements, il y a eu des gens qui sont, en fait, éjectés cavalièrement à l'extérieur du congrès du centre des congrès de Lévis. Mais sinon, ben, c'est ça, j'ai des belles photos de ça et des beaux vidéos de policiers arrogants qui repoussent sauvagement les méchants communistes qui essaient de pénétrer.
Qui essaient de rajouter un palier.
Là, sur les communistes, on rigole avec ça parce que Jean-Jacques Sanson avait dit que la CSN était communiste parce qu'elle proposait un nouveau palier d'imposition. Ceci dit, j'ai reçu, avant de venir à l'émission, mon exemplaire du numéro de janvier du Drapeau rouge.
Ben oui, d'ailleurs, il était distribué sur place. Il y avait le militant barbu d'office.
Oui, qui est le journal du Parti communiste. Communiste révolutionnaire. Et en page 3, ils disent à la CSN, c'est pas une bonne idée
de monter les impôts.
Et en fait, eux, ils sont contre.
Ben oui, c'est ça.
Mais scission chez les communistes.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune alternative dans le texte qui dit. Ils disent juste, ben là, tu sais, Charbonneau.
C'est pas une bonne stratégie.
C'est pas une bonne stratégie de modacier parce que là, vous allez monter le peuple contre vous. Mais ils proposent rien, tu sais.
Non, mais la proposition est simple, c'est la révolution, la seule solution.
Les communistes, c'est la solution. Puis en plus, j'en ai appris qu'il y avait une librairie communiste là, à Montréal.
Oui, Normand Béthune.
Normand Béthune.
La maison Normand Béthune. Enfin, bon. Mais c'était pas l'objet de la manifestation.
Non.
Non. Non, c'est ça. Puis donc, pour revenir un peu aux brasses camarades, là, ça a chauffé. Les gens étaient autour de la cohue. Et puis les gens scandaient des slogans comme « Police partout, justice nulle part ». Et puis la tension a monté. Mais bon, c'était temps de partir parce que l'autobus s'en allait, donc tout a été désamorcé.
Redescendu.
Les terroristes ont été repoussés.
L'heure du dodo arrivait, le terroriste devait s'en aller.
C'est ça, et le café refroidissait.
Ah non! Terreur!
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Est-ce qu'on voit se développer un mouvement d'ensemble autour du prochain budget ou... C'était quoi? C'est un pétard mouillé? C'est le début de la colère?
Ce que tu disais, Nicolas, tantôt, c'est que finalement, on s'attendait à 40 personnes, puis finalement, il y a eu peut-être 80 personnes.
Là, mais bon.
Fait que, c'est bon signe. Ça veut dire que finalement, il y a une opposition sérieuse. Bon, c'est plate qu'il y avait, c'était juste des syndicats, il n'y avait pas vraiment de citoyens massivement, mais bon.
Ben, l'autobus de Québec, ça ne devait pas être juste des syndiqués quand même.
Non, c'est vrai. Un de 40 de Québec bien déterminé qui voulait se battre contre 3 qui ne voulaient pas.
Vous avez une idée de la justice sociale un peu particulière, vous autres? OK. Y a-t-il quelque chose à retenir de plus de ça? Si vous voulez voir les photos juteuses, n'achetez pas le Journal de Québec, venez sur le blog.
On va mettre pas 93.3 non plus.
On va mettre de l'écran.
Les tous les médias étaient présents.
Ouais, d'ailleurs, moi, j'avais des gros dilemmes dans mon esprit pour justement avoir le gars du 93.3. Si vous avez des suggestions la prochaine fois, des choses qu'on pourrait faire à ces gens-là, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire, tu sais, alors qu'on voit un journaliste du 93.3 qui est sur place? Est-ce qu'on doit lui lancer des boules de neige? Est-ce qu'on doit l'insulter?
On doit solidariser avec un confrère.
Je sais comment l'insulte suprême, c'est lui donner de la lecture. Un drapeau rouge.
Je vais lui donner un drapeau rouge.
Ou un cause commune. C'est génial, sa tête va exploser, je pense.
sur les ondes de voix. On va passer en musique, on va revenir avec la dernière nouvelle de cette édition délirante de voix de fait. Depuis que notre envoyé spécial à Lévis est arrivé, on se tient plus.
Il est plein d'énergie.
Et c'est ça. Donc, c'est quoi qu'on a comme musique, en fait?
On va mettre les shérifs avec leur petit message à l'armée. Ne comptez pas sur moi.
Ça, bon.
Dominus odi orationem meam. Dominus vobiscum et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, voix de fer.
Ah bah, c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Et dans le sud, on est tous des gros feignants et on va pas changer maintenant. Ne comptez pas sur moi, pas sur moi, je veux pas devenir un tunique sans faire d'insulte. Pour pas en parenter, je deviens responsable. Ne comptez pas sur moi, je veux pas monter un uniforme, je vais faire changer une forme. Pour pas en parenter, je l'aime, me dis-toi, ne comptez pas sur moi. J'ai toujours été un compagnon, j'ai pas changé maintenant. Pour pas avoir honte, je lève le petit doigt, ne comptez pas.
Alors, de retour sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de fait. Triste nouvelle pour terminer ce bloc-là.
Ah, c'est la Cour suprême des États-Unis qui a décidé de renvoie en cour d'appel le dossier de Mumia Abu-Jamal. C'est un ancien journaliste et militant noir accusé du meurtre d'un policier blanc de 1981 qui a révélé sa décision d'invalider la peine de mort prononcée contre lui. C'est la Cour d'appel de Pennsylvanie qui avait converti sa condamnation à mort en prison à vie en 2008. La Cour, il avait pris cette décision-là, maintenant le verdict de culpabilité, mais il avait conclu que les jurys n'avaient pas été suffisamment informés de certains points de procédure lors du procès. La Cour suprême des États-Unis, ben, elle veut qu'elle revoie sa décision de la lumière d'une autre décision rendue en Ohio la semaine dernière. Concernant un triple meurtrier néo-nazi dont la peine de mort avait été aussi été commuée en peine de prison à vie, des motifs similaires, finalement, la Cour a décidé dans une autre affaire confirmer de condamner la mort du prisonnier. Donc, c'est ça. Le mouvement Abu-Jamal est dans le couloir de la mort depuis 28 ans, puis il a toujours déclaré son innocence. Puis il y a un extrait d'un texte qu'il avait écrit sur le site d'information Rue 89 l'été dernier. Tassé de quand le système judiciaire américain s'apparente à un broyeur à viande, vu de près ses rouages sont répugnants.
Oui, effectivement. Alors, ben ça, c'est un dossier qu'on suit quand même depuis quelques années. Il va sûrement y avoir d'autres mobilisations autour de ce cas-là qui est emblématique, en fait, de la question de la peine de mort aux États-Unis. Tant qu'à être dans le... Ben, est-ce que c'était tout pour ça? OK. On va mettre plus d'informations sur notre blog, probablement. Tant qu'à être... il nous reste encore quelques minutes. Alors, on va se permettre de rappeler qu'on est en train d'organiser une tournée. Alors, c'est la tournée Usine sans patron. C'est un anarchiste argentin de l'organisation Red Libertaria qui fait une tournée au Québec et en Ontario pour nous parler, en fait, des réponses des classes populaires argentines à la crise économique de 2001. Alors, on parlait d'usines récupérées, de piqueteros, de carceleros et tout ça, et du mouvement qu'ils s'en aillent tous. Alors, Sébastien est arrivé à Montréal hier, puis la tournée va commencer là, incessamment.
On
à Québec. Oui, on a hâte, certain. À Québec, il va s'arrêter à Québec le 2 février. Alors, c'est un mardi à 11h30. Il va être sur le campus de l'Université Laval au pavillon de Deconinck, mais j'ai oublié le numéro du local. Je viens juste de le recevoir. Oui, ça va être affiché. Et en basse ville de Québec, on va le recevoir dignement à la JT dans le cadre des Mardis de l'Anarchie. Donc, à 20h au 251 Dorchester. Évidemment, on va avoir l'occasion de vous en reparler. Mais c'est ça, c'est l'Union communiste libertaire, Common Cause, dont fait partie finalement le collectif Anarchiste la Nuit qui produit cette joyeuse émission Voix de fait qui organise ça. Alors, pour nous, c'est un gros morceau, puis ça va être vraiment intéressant. On vous convie à venir là, à ce moment-là. Puis c'est ça. Mais sinon, par ailleurs, il ne se passe rien à Québec ces temps-ci. Fait qu'on a comme un plug à faire. Oh, t'en as une, toi.
J'aurais une plug à faire. Les Mardis d'Anarchie recommencent officiellement mardi prochain. Ça va commencer à 8h avec la projection du livre Léticule. C'est un film que l'Université Marguerite-Bellemare qui affronte les autant les chrétiens, des juifs, des musulmans, des scientologues, des... Bon, toutes sortes de monde-là. C'est à 20h à l'AJT, au 251 rue Dorchester.
Le nom du film?
Ridiculous.
Ah, OK. Parce que je connaissais le nom en anglais, mais...
Ça, c'était pas...
Ridiculous.
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 En tout cas, bref, un film pour les latés bouffonnés en vous.
Il est vraiment excellent. À chaque fois qu'il réussit à plugger, peu importe le religieux, ça finit par... Oui, mais qu'est-ce que tu fais si t'as tort? C'est l'argument massue de la fin. C'est toujours, mais si t'as tort, hein, qu'est-ce que tu fais? T'iras pas au paradis, hein?
C'est
j'aime
bon.
Bien avoir tort.
Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous en avez pas eu assez, Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. On met à jour notre blog régulièrement. C'était Nicolas avec...
Janie.
François!
Guillaume, qui nous a quittés, et Farouko.
Ouais, on va finir avec une petite pièce instrumentale.
Une très bonne semaine sur les ondes de CKL 88.3 à Québec. Thank you.
c'est Evelyne de Siskoten. Moi, c'est Coyote. C'est sur la démocratie et la place des membres.
Tu aimes cette station, toi aussi? Deviens membre!